s'intéresse à la question des communs. Elle mène différents travaux dans ce domaine, sur cette question. Elle a notamment publié un ouvrage intitulé « Penser et agir avec la nature », co-rédigé, co-édité avec Raphaël Larrère. Ouvrage qui comporte un chapitre sur le sujet des communs, en lien avec la question de la biodiversité. Et donc, elle va nous livrer aujourd'hui une lecture de la question des communs à travers sa discipline, qui est celle de la philosophie de la politique morale. Donc, on vous laisse 25 minutes.
Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Oui, je suis philosophe, donc je suis dans le général. J'ai en fait beaucoup enchaîné sur ce qu'a dit Benjamin Coriat, ce qui va me permettre d'aller plus vite sur un certain nombre de points. C'est-à-dire, comme lui, je constaterai l'émergence finalement récente de cette interrogation sur les communs qui a pris de plus en plus d'importance. Bon, pour donner simplement une référence, puisqu'il y a été fait allusion. Moi, je me souviens, en 2010, une des commissions d'éthique de l'UNESCO a réuni un atelier international à Monaco sur biodiversité bien commun. Et le sujet était neuf, et on voit maintenant toute la... Bon, même si on en reste au domaine français, le collectif dirigé par Benjamin Coriat, Dardo Laval, auquel il a été fait allusion, et d'autres encore auxquels je pourrais faire allusion. Et dans la perspective pratique, je crois que dans la collection Utopia, la parution toute récente, c'est en 2017, Propriété et communs, idées reçues et propositions, montre bien que ce n'est pas simplement une interrogation générale de théoriciens ou de chercheurs, mais c'est ancré dans les pratiques. Alors moi aussi, je repartirai de l'ambiguïté, de la double dénomination que je prendrai dans les deux cas au pluriel, entre les biens communs d'un côté et les communs de l'autre. Je dirais, il me semble que dans la clarification sur la question des communs, on voit, pour des raisons que Benjamin Coriat a données d'ailleurs, les communs prendre le pas sur les biens communs. Alors je vais m'expliquer. Disons, là aussi je continue ce qui a été dit avant, que les communs ou les biens communs, comme toute question qui engage les questions de propriété, a une double référence, à la fois économique et juridique. Or, cette double référence ne se recouvre pas. On a d'une part la notion économique de commun, et qui, là aussi, j'y prends encore référence, a pour référence les travaux d'Ostrom, et de façon générale la notion anglaise de commons, alors que, ça a été la dernière question qui a été posée, sur les choses communes. Moi, je me souviens très bien dans ces 10 dernières années où la question des communs émerge, des biens communs émerge, j'ai entendu plusieurs juristes différents et pas d'accord entre eux, bon, tous français, mais dire juridiquement des biens communs, c'est un oxymore. Parce qu'il y a des choses communes, bon, article 714 du Code civil, qui sont non appropriées ou non appropriables, mais une fois que ces choses sont appropriées, elles deviennent des biens, et que ça soit privé ou public, eh bien, ce ne sont plus des biens communs. Nous, l'Ostrom, le modèle Ostrom, bien installé, et donc... écarte l'article de Hardin, et donc qui écarte Hardin comme métaphore de la crise écologique. Deuxième temps, donc, quelle est la portée de ce que montre Hardin, puisque, bon, ça a été rappelé, Ostrom, c'est la question des fonciers. Enfin, si on peut parler des fonciers pour la mer, parce que quand même, Ostrom et autour d'Ostrom, on a travaillé sur les pêcheries. Maritime, c'est pas exactement un foncier, mais enfin, disons, c'est pas non plus le territoire, mais disons bon, ce qui est l'écologique, hein, et la première généralisation, c'est effectivement, et là je n'y reviens pas, puis je connais beaucoup moins de choses là-dessus que sur la dimension écologique, ce sont les communs informationnels, bon, avec donc tout ce qui a été dit, et je ne le répète pas. Bien, alors, qu'on ne puisse passer des communs fonciers aux communs informationnels confirme, hein, ce qui était l'idée de Strom, que en ce sens, les communs ne sont pas des biens communs, au sens où ce ne sont pas des caractéristiques propres des choses qui les destinent à être ou non des communs. Alors, on montre bien que, et ça a été dit, hein, que les communs informationnels, ce n'est pas le même type de combinaison des deux critères d'exclusion et de rivalité, hein, ce n'est pas les common pool resources. Bien. Alors, à partir de là, jusqu'où on peut aller dans la généralisation. Donc, et c'est là que revient la dualité commun-bien commun, parce que d'une part, et ça a été très répété par Benjamin Coriat, il y a un volontarisme, sinon un constructivisme commun. Hein. On peut déclarer commun n'importe quoi. Hein, c'est une décision. C'est une volonté, il n'y a pas des choses qui sont exclues a priori. En même temps, et ça a été rappelé à propos de l'école italienne, disons, qu'il y a quand même, alors je garde le terme de choses, hein, dans son ambiguïté juridique, il y a quand même des choses qui deviendront mieux des communs que d'autres. Et je cite là Bollier, bon, qui est un des spécialistes des communs, quand il dit, je cite, « Ces choses que nous sommes en droit d'utiliser à titre collectif peuvent être des dons de la nature ou des ressources produites collectivement, comme le savoir, les techniques culturelles, les espaces urbains, le paysage, on retrouve à peu près la même liste que tout à l'heure. » Donc, de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose qui est peut-être ambigu quand on lit le livre d'Ardo et Laval. Je ne pense pas que sur la base des communs, il y ait un projet global de société, au sens où le socialisme pourrait être un projet alternatif du capitalisme. Les communs ne sont pas le communisme de demain, me semble-t-il. Ça a plutôt vocation à être dans les interstices, hein, des grandes dualités qui caractérisent les sociétés modernes, celles du public et du privé, celles du marché et de l'État. Et donc, c'est plutôt ceux qui se glissent donc, dans les dualismes existants, marché-État, public-privé, pas pour les supplanter, pas pour se présenter comme un modèle qui va prendre toute la place, mais plutôt pour les subvertir. Alors, l'hypothèse que je voudrais faire de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, ce devant quoi on se trouve, c'est ce que l'on pourrait appeler les deux sociétés civiles. La deuxième, alors je m'explique de quoi je parle quand je parle de deux sociétés civiles. Il y a en fait, en effet, alors là, permettez-moi de parler en tant que philosophe, spécialiste de philosophie politique, et donc comme en France, l'histoire de la philosophie politique. En fait, vous avez deux généalogies de la société civile. Vous avez la plus connue, qui est celle qu'installe Hegel dans les principes de la philosophie des droits, qui est la séparation de la société civile et de l'État. Et, il y a un article allemand de référence sur la question qui montre bien comment, depuis Aristote, hein, et les traductions latines puis européennes d'Aristote, les termes de, laissez-moi le dire en latin, hein, societas civilis, Civé Respublica, société civile sinon république ou état, sont des termes synonymes, hein, qu'on retrouve à travers les traductions d'Aristote en fait en Europe, jusqu'à ce que, toc, Hegel, en gros en 1830, dans les principes de la philosophie du droit, déclare séparation de la société civile et de l'État, qui lui permet de donner place à quoi ? Mais à l'économie politique écossaise, hein, qui a complètement transformé, Ferguson, le sens de société civile, et donc la dualité de la société civile et d'État. Alors Hegel ne parle pas de marché dans les principes de la philosophie du droit, c'est la dualité, mais disons, dites marché si vous voulez, c'est le système des besoins, ce qu'il appelle le système des besoins, l'économie et l'État. Donc ça c'est une lignée hein, que vous trouvez avec la marché-État. Alors par ailleurs, il y a un autre sens de société civile qui est à peu près contemporain, qu'on trouve dans Tocqueville, que Tocqueville découvre en partant aux États-Unis, et que dont le philosophe canadien Charles Taylor va reprendre l'idée après 1989, quand il se demande pourquoi on peut dire que dans les pays de l'Est, il n'y avait pas de société civile. Et à ce moment-là, Charles Taylor donne une toute autre généalogie de la société civile en disant la société civile, c'est celle des libres associations. Hein, ce qu'il n'y avait pas dans les pays de l'Est, c'est des associations indépendantes de l'État. Et ça, c'est ça qui fait la société civile. Et bon, il en donne une autre généalogie qu'il va chercher dans le Moyen-Âge, alors que, comme je vous ai dit, celle de Hegel, on l'a fait remonter à la Grèce. Or, ces deux sociétés civiles-là, c'est les deux sociétés civiles qui se font face, au début du XXIe siècle, à Seattle, hein, entre l'OMC et puis hein, une société civile des libres associations qui se définit en dehors du marché, en dehors du système des besoins. Alors, cette société civile, elle s'est pensée comme militante et culturelle. Je pense que les communs lui donnent une autre forme de base économique, hein, l'économie collaborative, bon, ce à quoi il a été fait allusion dans la présentation, hein, d'économie sociale et solidaire, pour toutes ces formes d'économie qui donc donnent, une base économique à la deuxième société civile. Et ce qui me paraît important dans la notion de commun, est ce que dit avec assez d'insistance le petit volume d'Utopia auquel j'ai fait référence, c'est que ces communs, ils existent. Hein, ce n'est pas un projet construit, ce n'est pas une utopie, au sens de construction d'un projet social. C'est, alors, moi, j'en sais rien, hein, mais le petit volume d'Utopia dit qu'il y a 2 milliards de terriens ou d'humains qui sont en fait dans des communs. Donc, il y a là une base d'étude de ce qui se passe, une base empirique d'étude de ce qui se passe, qui me paraît très importante. Et pour rajouter à toutes les références qui ont été faites, le foncier, la mer, les villes, l'informationnel, etc., je donnerai une référence qui est justement la nature que l'on protège. Hein. Qui est alors Kenneth Solvig, qui est un Suédois, qui fait une réflexion sur la notion de parcs nationaux et naturels, hein, ça autour de des parcs américains Yosemite et Yellowstone, comme une forme de gestion en commun d'une nature à préserver. Et ça me paraît important, enfin moi dans mon côté, bon, je travaille beaucoup sur les questions de la protection de la nature, c'est une remarquable réponse, me semble-t-il, aux impasses de la notion de la wilderness. Bon, donc il y a un caractère heuristique, ça aide à comprendre la notion de commun comme examen de ce qui se fait et qui ne rentre pas dans les catégories de l'économie classique. Alors j'en viens maintenant à ma dernière partie, qui sont les ennemis des communs. Bon, je dirais simplement, bon, je reprends le sous-titre du collectif sur les communs dirigé par Benjamin Coriat, Et le sous-titre, c'est la crise de l'idéologie propriétaire. Ah, et ça vous a été dit, bon, et on le redit, ça remet en cause une idée de la propriété. C'est-à-dire quoi? Alors je pense qu'on peut distinguer deux niveaux dans la conception de la propriété qui est remise en cause. Je dirais que, et c'est important de ce point de vue-là que les communs existent, hein, qu'on puisse décrire ce qui se passe, vous allez comprendre pourquoi. Je dirais que les communs remettent en cause donc leurs ennemis, ce que j'appellerais l'anthropologie par défaut du calcul économique et des théories du choix rationnel, dont l'article de Gary Hardin est un exemple. Hein, l'article de Gary Hardin, la tragédie des communs, c'est quelque chose qui est du type dilemme du prisonnier, hein, où des conduites intéressées, rationnelles, individuelles, aboutissent à des échecs. Hein, c'est un exemple parmi d'autres de dilemme du prisonnier. Donc cet individu solitaire, désintéressé au sens où Rawls le dit désintéressé, c'est-à-dire intéressé uniquement à lui-même, ce qui n'est pas le sens ordinaire du terme, calculateur mais limité au présent, à ça les communs, et pourquoi est-ce que je dis que c'est une anthropologie par défaut? C'est parce qu'on sait bien que c'est pas vrai. Hein, on sait bien que vous, moi, nous tous, nous sommes pas uniquement ces idiots rationnels dont parle Amartya Sen. Simplement, on vous dit, bah, si on veut raisonner, c'est-à-dire si on veut universaliser, c'est ça l'anthropologie qu'il faut prendre. Les communs répondent, non, c'est pas vrai. Il y a des conduites altruistes, il y a des conduites qui tiennent compte de l'avenir, donc il y a qui visent le long terme, etc., préoccupées des autres, et elles sont, je renvoie au Strom, hein, durables, efficaces, équitables. Deuxième niveau de remise en cause, alors plutôt que d'idéologie propriétaire, je parlerai d'individualisme possessif. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est celle qu'a employé un historien des idées, un philosophe britannique, Macpherson, hein, dans un livre paru en 1962, et qui étudiait comme d'autres, hein, il y a eu toute une série de travaux entre les années 60 et les années 90, qui sont là-dessus, sur justement le milieu où se forme cet individualisme possessif. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, mais l'Angleterre, hein, l'Angleterre des enclosures de Thomas More, hein, 1516. Souvenez-vous que l'utopie de Thomas More, c'est là-dessus qu'elle démarre, hein, que toute la première partie de l'utopie parle, hein, des enclosures, de ces grands propriétaires qui chassent leurs tenanciers pour clore leurs terres et faire de l'élevage, hein, ce sont les moutons qui deviennent des loups, donc, voilà. Et que sur cette base de réflexion, au XVIIe et XVIIIe siècle, bon, avec les deux révolutions anglaises, va se définir toute une conception de l'individu comme propriétaire. C'est Locke, et quelqu'un comme Louis Dumont dans Homo Equalis a bien montré à quel point cette conception de la propriété, c'était de faire un rapport immédiat et soustrait à tout rapport social entre l'individu et la nature. Entre l'individu et la façon dont il s'approprie la nature. Donc, de ce point de vue-là, je cite une définition des communs. Quand on dit « la question des biens communs est avant tout celle de notre relation aux autres lorsque nous utilisons quelque chose en commun hein, », l'idée que dans les communs, la relation aux autres a autant et plus d'importance que la relation aux choses, c'est anti-Locke autant qu'on peut l'être. C'est anti-individualisme possessif, c'est anti l'idée que c'est en se mettant dans son rapport à la nature que l'individu se soustrait aux rapports sociaux et devient son propre maître. Mais, et c'est là que je veux en venir, si je reprends le titre entier du livre de Macpherson, c'est la théorie politique de l'individualisme possessif. Ce qui intéresse Macpherson, c'est pas comme ce qui intéresse Louis Dumont, c'est-à-dire la formation de l'anthropologie économique, c'est bien la théorie politique telle qu'elle va, disons, aller d'une révolution aux autres, hein, aller des révolutions anglaises du XVIIe siècle aux révolutions américaines et européennes de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire pour la théorie du contrat, la théorie du contrat comme base d'une conception de la loi, Benjamin Coriat en a parlé, je vais y revenir, hein. Souvenez-vous de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est l'expression de la volonté générale, et il n'y a pas qu'une référence à Rousseau, hein, dans l'expression volonté générale déborde la célébrité que Rousseau lui a donnée. Simplement, si j'ai fait référence à Rousseau, c'est que vous avez chez Rousseau une définition particulièrement claire de la généralité de la loi, de la double généralité de la loi, comme une façon de maintenir l'égalité entre les individus en les ramenant à une volonté commune. Et c'est clairement dit par Rousseau, et là encore, c'est pas propre à Rousseau, ça suppose que entre l'individu et la loi ne s'interpose aucune collectivité intermédiaire, hein, ni brigue, ni parti, ni corps. Autrement dit, le problème des communs, pas le communisme, le problème des communs, c'est le communautarisme, ou ce qu'on appelle tel. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, hein, mais je suis en train de vous dire qu'à mon avis, le problème, il est là. Le problème des communs, c'est l'égoïsme de petits groupes qui s'interpose entre les individus et la généralité de la loi, c'est-à-dire qu'on voit ressurgir un problème classique des questions écologiques, le problème du NIMBY, hein, notre Inner Backyard, donc d'affirmer la volonté d'un petit groupe. Et la question qui se pose, c'est donc comment se réarticuler avec la généralité de la loi. Est-ce qu'on s'en passe complètement? Comment? Alors, je vais simplement terminer en revenant donc sur l'article 714 du Code civil, les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, et puis ce qui continue l'article 714 du Code civil, des lois de police règlent la manière d'en jouir. Hein. Et Code civil, Napoléon, 1803, on est post-révolution, je veux dire, les lois de police, c'est l'État. Hein. C'est la volonté générale, c'est la loi. Et donc, ce qui, dans la définition du Code civil, garantit l'usage collectif, c'est la généralité de la loi. Hein. Or, c'est ça que les communs mettent aussi en cause. Hein, il vous a été dit et que, de ce point de vue-là, le bien public au sens juridique du terme, que le bien public et le commun n'est pas la même chose, et que, justement, parce que les communs remettent en cause la distinction public-privé, sans tout privatiser ou sans tout publiciser, eh bien, se pose la question d'une réappropriation du public. Donc, il me semble que... on le voit bien quand on lit Ostrom, c'est, si on prend les catégories, c'est économiquement une institutionnaliste, mais se pose la question des institutions. Comment définir ces institutions? Et moi, je dirais que, en tant que philosophe politique, le terme de gouvernance, moi, est un terme qui m'inquiète beaucoup. Parce que ça fait bien, hein, ça fait... horizontale, ça fait démocratie délibérative ou participative, mais on sait que c'est aussi du terme de la vocabulaire néolibéral, hein, et que derrière l'affirmation de la démocratie directe, disons, il y a en fait la tentation que l'administration des choses prenne la place du gouvernement des hommes. Donc il me semble que le retour sans arrêt de la gouvernance, pour parler des communs, indique un problème, hein, qui est le problème du type d'institution, du type de la question de la loi. C'est d'ailleurs bien ce qu'a dit, enfin je ne m'inscris pas du tout en faux devant ce qu'a dit Benjamin Thoriat, je le pose en problème. Hein. Ce n'est pas avec la gouvernance qu'on répondra à ces questions. Et je voudrais simplement, pour terminer, parce que j'ai commencé en parlant de la biodiversité comme bien commun, revenir à la biodiversité à Gary Hartman. Bon, je dis, c'est un mauvais article, à mon avis. Il n'empêche que l'article de Gary Hartman est visiblement la référence de la Convention de Rio sur la diversité biologique. Et vous savez que le sommet de la Terre à Rio a rejeté la proposition qui avait été faite, en particulier par la France, de faire de la biodiversité un patrimoine commun de l'humanité, que depuis Rio, la biodiversité relève de la souveraineté des États, ce qui en autorise la marchandisation, point. Hein. Donc de ce point de vue-là, je dirais le triomphe de Gary Hartman est d'ailleurs aussi son échec, parce que cette marginalisation n'a rien donné. Et c'est pourquoi, en 2010, hein, l'UNESCO faisait réfléchir un certain nombre de entre guillemets, experts internationaux, sur la question des communs. Seulement, comment, hein? Parce que si vous prenez la leçon d'Ostrom, qui me paraît juste, hein, ce n'est pas la qualité intrinsèque des ressources qui font les communs, c'est la déclaration de la communauté, hein, c'est l'existence de la communauté. Oui, mais quelle communauté au niveau de la biodiversité? Comment vous allez donner une existence institutionnelle à une gouvernance mondiale de la biodiversité? Donc, c'est là, et je terminerai là-dessus, mais en question, hein, qui me semble qu'on ne peut pas se contenter de l'approche principalement économique, subversive économiquement, mais principalement économique de la question des communs, qu'il faut articuler le juridique et le politique dans une interrogation sur que sont les institutions du commun et quelles en sont les bases politiques. Voilà, merci.
On a un quart d'heure pour prendre quelques questions. Qui veut commencer?
Bonjour. Il y a une chose qui revient sans arrêt, c'est l'équivalence entre public et État. Or, quand même, il y a beaucoup de formes, Jérôme.
Excusez-moi une seconde, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser les questions? Ça facilitera pour l'enregistrement.
Donc, Jérôme Boissonnade. Donc, autant dans l'exposé précédent que dans celui-ci, il y a une équivalence qui est donnée, systématique, entre public et État, pour décrédibiliser finalement ou stigmatiser une gestion qui serait inadéquate par rapport à des territoires locaux, etc. C'est pas une critique, hein. C'est juste que il me semble que ça oriente un petit peu, disons, la manière dont on peut considérer la gestion des biens publics. Or, on pourrait très bien se dire que finalement, des biens publics peuvent être gérés de manière commune, à des échelles différentes, justement. On peut imaginer cette gestion commune à des échelles différentes, et que donc la question relève moins d'une séparation entre qu'il faudrait faire, qu'on aurait à faire entre biens publics et bien commun, que dans le caractère démocratique de la communauté et de l'institution qui est censée gérer ce bien. Voilà, donc parce que sinon j'ai du mal à comprendre ce que dit Ostrom quand vous avez rappelé, donc qui dit finalement la nature du commun ne relève pas de la nature des ressources en question. Il me semble que c'est évacuer un petit peu vite quand même la question de est-ce qu'une ressource doit être de statut public ou non. Et il me semble que quand on parle de bien commun, vous disiez l'intérêt des communs, ça a pour intérêt de subvertir les biens publics, enfin ce qu'on appelle bien public ou bien privé. Il me semble quand même que, et c'est la question que vous posez sur la gouvernance, justement, c'est que les biens communs, on peut imaginer qu'ils subvertissent les biens publics, mais dans un sens justement néolibéral d'institutions, de nouveaux types de gouvernance au sens néolibéral, justement sur des biens publics.
Je ne suis pas sûr de vous suivre complètement. Bon, je parle français, on est en France, on est dans un pays hyper centralisé. Bon, on peut descendre dans les territoires, mais l'État est toujours derrière. Donc, et d'autre part, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est comment la notion de commun subvertit une catégorisation à la fois politique, juridique et économique, qui est complètement dualiste. Hein, vous êtes dans le marché ou dans l'État, vous êtes dans le public ou dans le privé. Il m'en faudrait une troisième, mais je ne trouve pas. Et donc, ça remet ça en cause, mais c'est pour ça que c'est une notion, comme a dit Benjamin Coria, complexe et difficile à manier. Et c'est pas en mettant, en disant démocratie, on n'avance pas. Hein. Donc, si vous voulez, les dualismes, ils sont là. Hein. Les juristes, ils adorent les divisions. Hein. Il y en a plusieurs sur la division en droit. Donc, c'est moi ce qui m'intéresse dans les communs, et c'est pour ça que je préfère dire commun que bien commun. C'est la façon dont ça remet en cause des dualités qui organisent la vie politique et le droit. On a vu aussi, et sans doute dans le droit du côté italien, hein, qu'on revient sur cette impossibilité juridique du bien commun qui amène à parler de choses communes, mais il me semble que c'est ce que je voudrais présenter, que c'est la référence économique qui a pris le pas sur des références juridiques qui étaient beaucoup plus floues, et que il en ressort, ça sera les trois points que je vais développer, à la fois que bon, les communs, c'est, je reprendrai ce qu'a dit Benjamin Coria, c'est à la fois l'écologie et la démocratie, hein, faire avancer les deux à la fois. Et c'est extrêmement important, mais je pense aussi qu'il reste énormément de questions du fait qu'on n'est pas au point juridiquement et on n'est pas au point politiquement. Donc je voudrais rapidement, hein, en m'appuyant sur tout ce que Benjamin Coriès a dit avant moi, reprendre en trois temps bon, le modèle économique de référence. Je repartirai de Strom. Et j'insisterai un peu plus sur, il y a été fait référence à l'article de Gary Hardin et la façon dont Ostrom peut apparaître comme une réponse à Gary Hardin. Je poserai dans un deuxième temps la question de la généralisation de ce modèle à partir de choses qui ont été dites. Et dans un troisième temps que j'intitulerai de façon un peu exagérée « Qui sont les ennemis des communs ?» je poserai la question des objections qui ont été faites, qui peuvent être faites au commun, et c'est là que j'en viendrai à la dimension politique. Alors, très rapidement, hein, puisque visiblement vous connaissez tous bien ça, bon, je repartirai quand même de l'article d'Hardin de 1968, paru dans Science, hein, la tragédie des communs. Bon, il y a un article de Fabien Locher sur l'article de Gary Hardin qui met très bien en le contexte, hein, le contexte des années 60, fin des années 60-70, le contexte de la peur de la démographie galopante et l'idée que la tragédie des communs, c'est la tragédie de la dégradation écologique consécutive à la démographie galopante avec l'exemple fictif du pâturage surexploité et la question, la tragédie des communs comme modèle des problèmes écologiques. Alors, je dirais que l'article de Gary Hardin est un mauvais article, mais qui a eu un retentissement énorme, je reviendrai à la fin. Il y a des bons articles qui ont beaucoup de retentissement, puis il y a des mauvais articles qui ont aussi beaucoup de retentissement. Et de ce point de vue-là, on peut penser que le travail d'Ostrom, bon, même si je vous renvoie à ce qu'a dit Coriat, il a des références plus immédiates, est une façon de dire à quel point cet article est mauvais, hein, en ce sens que simplement l'exemple pris par Gary Hardin est faux, hein, l'histoire du pâturage surexploité, c'est justement un de ces exemples de commun avec des règles d'usage. Et donc, les trois points que dégage Ostrom, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un commun? Des ressources, une communauté et des règles. Alors, en quoi est-ce que ça constitue une réponse à Hardin? Eh bien, l'erreur de Hardin, et qui a été répétée par quantité d'autres gens, j'y reviendrai, c'est d'avoir pris pour des communs une zone de non-droit, si je le dis en termes juridiques, d'avoir confondu res nullius, des choses qui n'appartiennent à personne, et res communis, hein, des choses qui n'appartiennent à personne, mais qui sont d'usage commun, et donc de ne pas avoir tout simplement vu les communs. Donc, deuxième idée qu'apporte Ostrom, et qui est une réponse à Hardin, qu'est-ce qui fait un commun, on vient de vous le dire, c'est pas les qualités intrinsèques des biens, c'est là-dessus qu'on va se faire la différence entre les communs et les biens communs, c'est pas les qualités intrinsèques de la ressource, mais c'est la communauté et les règles qui l'instituent. C'est aussi pourquoi, hein, les biens communs ne sont pas uniquement des choses communes qu'on aurait trouvé le moyen d'approprier. Toute chose, je vais y revenir, peut devenir un bien commun. Et ce que Ostrom apprend aussi à Hardin, et bon, ce qui a fait le succès d'Hardin, c'est que ça tombait dans la vulgate économique classique, hein, selon laquelle où on est dans le marché, où on est dans l'État. Et ce que montre Ostrom, eh ben, c'est qu'il y a autre chose que l'alternative marché-État. D'où, deuxième point, la question, une fois qu'on a le moule Ostrom, le modèle Ostrom, bien installé et donc qui écarte l'article de Hardin et donc qui écarte Hardin comme métaphore de la crise écologique. Deuxième temps, donc, quelle est la portée de ce que montre Hardin, puisque, bon, ça a été rappelé, Ostrom, c'est la question des fonciers. Enfin, si on peut parler des fonciers pour la mer, hein, parce que quand même Ostrom et autour d'Ostrom, on a travaillé sur les pêcheries. Maritime, c'est pas exactement le foncier, mais enfin, disons, c'est pas non plus le territoire, mais disons, bon, ce qui est l'écologique, hein, et la première généralisation, c'est effectivement, et là je n'y reviens pas, puis je connais beaucoup moins de choses là-dessus que sur la dimension écologique, ce sont les communs informationnels, bon, avec donc tout ce qui a été dit, et je ne le répète pas. Bien, alors, qu'on ne puisse passer des communs fonciers aux communs informationnels confirme, hein, ce qu'était l'idée de Ostrom, que, en ce sens, les communs ne sont pas des biens communs, au sens où ce ne sont pas des caractéristiques propres des choses qui les destinent à être ou non des communs. Alors, on montre bien que, et ça a été dit, hein, que les communs informationnels, ce n'est pas le même type de combinaison des deux critères d'exclusion et de rivalité, hein, ce n'est pas les common pool resources. Bien. Alors, à partir de là, jusqu'où on peut aller dans la généralisation? Donc, et c'est là que revient la dualité commun-bien commun. Parce que d'une part, et ça a été très répété par Benjamin Coriat, il y a un volontarisme, sinon un constructivisme commun. Hein, on peut déclarer commun n'importe où. Hein, c'est une décision, c'est une volonté, il n'y a pas des choses qui sont exclues a priori. En même temps, et ça a été rappelé à propos de l'école italienne, disons, qu'il y a quand même, alors je garde le terme de choses, hein, avec dans son ambiguïté juridique, Il y a quand même des choses qui deviendront mieux des communs que d'autres. Et je cite là Bollier, bon, qui est un des spécialistes des communs, quand il dit, je cite, « Ces choses que nous sommes en droit d'utiliser à titre collectif peuvent être des dons de la nature ou des ressources produites collectivement, comme le savoir, les techniques culturelles, les espaces urbains, le paysage, on retrouve à peu près la même liste que tout à l'heure. » Donc, de ce point de vue-là, parce que c'est quelque chose qui est peut-être ambigu quand on lit le livre d'Ardo et Laval, je ne pense pas que sur la base des communs, il y ait un projet global de société au sens où le socialisme pourrait être un projet alternatif du capitalisme. Les communs ne sont pas le communisme de demain, me semble-t-il. C'est plutôt, ça a plutôt vocation à être dans les interstices, hein, des grandes dualités qui caractérisent les sociétés modernes, celles du public et du privé, celles du marché et de l'État. Et donc, c'est plutôt ceux qui se glissent donc, dans les dualismes existants, marché-État, public-privé, pas pour les supplanter, pas pour se présenter comme un modèle qui va prendre toute la place, mais plutôt pour les subvertir. Alors, l'hypothèse que je voudrais faire de ce point de vue-là, c'est qu'en fait, ce devant quoi on se trouve, c'est ce que l'on pourrait appeler les deux sociétés civiles. La deuxième, alors je m'explique de quoi je parle quand je parle de deux sociétés civiles. Il y a en fait, en effet, alors là, permettez-moi de parler en tant que philosophe, spécialiste de philosophie politique, et donc comme en France, l'histoire de la philosophie politique. En fait, vous avez deux généalogies de la société civile. Vous avez la plus connue, qui est celle qu'installe Hegel dans les principes de la philosophie des droits, qui est la séparation de la société civile et de l'État. Et, bon, ça, il y a un article allemand de référence sur la question qui montre bien comment, depuis Aristote, hein, et les traductions latines puis européennes d'Aristote, les termes de, laissez-moi le dire en latin, hein, societas civilis, civis respublica, société civile sinon république ou état, sont des termes synonymes hein, qu'on retrouve à travers les traductions d'Aristote en fait en Europe, jusqu'à ce que, tac, Hegel, en gros en 1830, dans les principes de la philosophie du droit, déclare séparation de la société civile et de l'État, qui lui permet de donner place à quoi ? Bien à l'économie politique écossaise, hein, qui a complètement transformé, Ferguson, le sens de société civile, et donc la dualité de la société civile et d'État. Alors Hegel ne parle pas de marché dans les principes de la philosophie du droit, c'est la dualité, mais disons, dites marché si vous voulez, c'est le système des besoins, ce qu'il appelle le système des besoins, l'économie et l'État. Donc ça c'est une lignée hein, que vous trouvez avec la marché-État. Alors par ailleurs, il y a un autre sens de société civile qui est à peu près contemporain, qu'on trouve dans Tocqueville, que Tocqueville découvre en partant aux États-Unis, et que dont le philosophe canadien Charles Taylor va reprendre l'idée après 1989, quand il se demande pourquoi on peut dire que dans les pays de l'Est, il n'y avait pas de société civile. Et à ce moment-là, Charles Taylor donne une toute autre généalogie de la société civile en disant la société civile, c'est celle des libres associations. Hein, ce qu'il n'y avait pas dans les pays de l'Est, c'est des associations indépendantes de l'État. Et ça, c'est ça qui fait la société civile. Et bon, il en donne une autre généalogie qu'il va chercher dans le Moyen-Âge, alors que, comme je vous ai dit, celle de Hegel, on l'a fait remonter à la Grèce. Or, ces deux sociétés civiles-là, c'est les deux sociétés civiles qui se font face au début du XXIe siècle à Seattle, hein, entre l'OMC et puis, hein, là, une société civile, des libres associations qui se définit en dehors du marché, en dehors du système des besoins. Alors, cette société civile, elle s'est pensée comme militante et culturelle. Je pense que les communs lui donnent une autre forme de base économique. Hein, l'économie collaborative, bon, ce à quoi il a été fait allusion dans la présentation, hein, d'économie sociale et solidaire, pour toutes ces formes d'économie qui donc donnent, je dirais, une base économique à j'appelle la deuxième société civile. Et ce qui me paraît important dans la notion de commun, est-ce que dit avec assez d'insistance le petit volume d'Utopia auquel j'ai fait référence, c'est que ces communs, ils existent. Hein, ce n'est pas un projet construit, ce n'est pas une utopie, au sens de construction d'un projet social. C'est, alors, moi, j'en sais rien, hein, mais le petit volume d'Utopia dit qu'il y a 2 milliards de terriens ou d'humains qui sont en fait dans des communs. Donc, il y a là une base d'études de ce qui se passe, une base empirique d'études de ce qui se passe, qui me paraît très importante. Et pour ajouter à toutes les références qui ont été faites, le foncier, la mer, les villes, l'informationnel, etc., je donnerai une référence qui est justement la nature que l'on protège. Hein. Qui est alors Kenneth Solvig, qui est un Suédois, qui fait une réflexion sur la notion de parcs nationaux et naturels, hein, ça autour de les parcs américains Yosemite et Yellowstone, comme une forme de gestion en commun d'une nature à préserver. Et ça me paraît important, enfin moi dans mon côté, bon, j'ai beaucoup travaillé je travaille beaucoup sur les questions de la protection de la nature, c'est une remarquable réponse, me semble-t-il, aux impasses de la notion de la wilderness. Bon, donc il y a un caractère heuristique, ça aide à comprendre la notion de commun comme examen de ce qui se fait et qui ne rentre pas dans les catégories de l'économie classique. Alors j'en viens maintenant à ma dernière partie, qui sont les ennemis des communs. Bon, je dirais simplement, bon, je reprends le sous-titre du collectif sur les communs dirigé par Benjamin Coriat, et le sous-titre c'est la crise de l'idéologie propriétaire. Ah, et ça vous a été dit, bon, et on le redit, ça remet en cause une idée de la propriété. C'est-à-dire quoi ? Alors je pense qu'on peut distinguer deux niveaux dans la conception de la propriété qui est remise en cause. Je dirais que, et c'est important de ce point de vue-là que les communs existent, hein, qu'on puisse décrire ce qui se passe, vous allez comprendre pourquoi. Je dirais que les communs remettent en cause donc leurs ennemis, ce que j'appellerais l'anthropologie par défaut du calcul économique et des théories du choix rationnel, dont l'article de Gary Hardin est un exemple. Hein, l'article de Gary Hardin, la tragédie des communs, c'est quelque chose qui est du type dilemme du prisonnier, hein, où des conduites intéressées, rationnelles, individuelles, aboutissent à des échecs. Hein, c'est un exemple parmi d'autres de dilemme du prisonnier. Donc cet individu solitaire, désintéressé au sens où Rawls le dit désintéressé, c'est-à-dire intéressé uniquement à lui-même, ce qui n'est pas le sens ordinaire du terme, calculateur mais limité au présent, à ça les communs, et pourquoi est-ce que je dis que c'est une anthropologie par défaut? C'est parce qu'on sait bien que ce n'est pas vrai. Hein, on sait bien que vous, moi, nous tous, nous ne sommes pas uniquement ces idiots rationnels dont parle Amartya Sen. Simplement, on vous dit, bah, si on veut raisonner, c'est-à-dire si on veut universaliser, c'est ça l'anthropologie qu'il faut prendre. Les communs répondent, non, ce n'est pas vrai. Il y a des conduites altruistes, il y a des conduites qui tiennent compte de l'avenir, donc il y a qui visent le long terme, etc., préoccupées des autres, et elles sont, je renvoie au Strom, hein, durables, efficaces, équitables. Deuxième niveau de remise. remise en cause, alors plutôt que d'idéologie propriétaire, je parlerai d'individualisme possessif. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est celle qu'a employée un historien des idées, un philosophe britannique, Macpherson, hein, dans un livre paru en 1962, et qui étudiait comme d'autres, hein, il y a eu toute une série de travaux entre les années 60 et les années 90, disons là-dessus, sur justement le milieu où se forme cet individualisme possessif. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, mais l'Angleterre, hein, l'Angleterre des enclosures de Thomas More, hein, 1516. Souvenez-vous que l'utopie de Thomas More, c'est là-dessus qu'elle démarre, hein, que toute la première partie de l'utopie parle, hein, des enclosures, de ces grands propriétaires qui chassent leurs tenanciers pour clore leurs terres et faire de l'élevage. Hein, ce sont les moutons qui deviennent des loups. Donc, voilà. Et que sur cette base de réflexion, au XVIIe et XVIIIe siècle, bon, avec les deux révolutions anglaises, va se définir toute une conception de l'individu comme propriétaire. C'est Locke, et quelqu'un comme Louis Dumont dans Homo Equalis a bien montré à quel point cette conception de la propriété, c'était de faire un rapport immédiat et soustrait à tout rapport social entre l'individu et la nature. Entre l'individu et la façon dont il s'approprie la nature. Donc, de ce point de vue-là, je cite une définition des communs. Quand on dit « la question des biens communs est avant tout celle de notre relation aux autres lorsque nous utilisons quelque chose en commun hein, », l'idée que dans les communs, la relation aux autres a autant et plus d'importance que la relation aux choses, c'est anti-Locke autant qu'on peut l'être. C'est anti-individualisme possessif, c'est anti l'idée que c'est en se mettant dans son rapport à la nature que l'individu se soustrait aux rapports sociaux et devient son propre maître. Mais, et c'est là que je veux en venir, si je reprends le titre entier du livre de Macpherson, c'est la théorie politique de l'individualisme possessif. Ce qui intéresse Macpherson, c'est pas comme ce qui intéresse Louis Dumont, c'est-à-dire la mise en place, la formation d'anthropologie économique, c'est bien la théorie politique telle qu'elle va, disons, aller d'une révolution aux autres, hein, aller des révolutions anglaises du XVIIe siècle aux révolutions américaines et européennes de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire pour la théorie du contrat, la théorie du contrat comme base d'une conception de la loi, Benjamin Coriat en a parlé, je vais y revenir. Hein. Souvenez-vous de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi est l'expression de la volonté générale. Et il n'y a pas qu'une référence à Rousseau. Hein. Dans l'expression de volonté générale déborde la célébrité que Rousseau lui a donnée. Simplement, si je fais référence à Rousseau, c'est que vous avez chez Rousseau une définition particulièrement claire de la généralité de la loi, de la double généralité de la loi, comme une façon de maintenir l'égalité entre les individus en les ramenant à une volonté commune. Et c'est clairement dit par Rousseau, et là encore, ce n'est pas propre à Rousseau, ça suppose que entre l'individu et la loi, ne s'interpose aucune collectivité intermédiaire, hein, ni brigue, ni parti, ni corps. Autrement dit, le problème des communs, pas le communisme, le problème des communs, c'est le communautarisme, ou ce qu'on appelle tel. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mauvais, hein, mais je suis en train de vous dire qu'à mon avis, le problème, il est là. Le problème des communs, c'est l'égoïsme de petits groupes qui s'interpose entre les individus et la généralité de la loi, c'est-à-dire qu'on voit ressurgir un problème classique des questions écologiques, le problème du NIMBY, hein, notre in my backyard, donc d'affirmer la volonté d'un petit groupe. Et la question qui se pose, c'est donc comment se réarticuler avec la généralité de la loi, est-ce qu'on s'en passe complètement? Comment? Alors, je vais simplement terminer En revenant donc sur l'article 714 du Code civil, les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous, et puis ce qui continue l'article 714 du Code civil, des lois de police règlent la manière d'en jouir. Hein. Et Code civil, Napoléon, 1803, on est post-révolution, je veux dire, les lois de police, c'est l'État. Hein. C'est la volonté générale, c'est la loi. Et donc, ce qui, dans la définition du Code civil, garantit l'usage collectif, c'est la généralité de la loi. Hein. Or, c'est ça que les communs mettent aussi en cause. Hein. Il vous a été dit et que, de ce point de vue-là, le bien public au sens juridique du terme, que le bien public et le commun n'est pas la même chose, et que, justement, parce que les communs remettent en cause la distinction public-privé, sans tout privatiser ou sans tout publiciser, eh bien, se pose la question d'une réappropriation du public. Donc, il me semble que, alors, on le voit bien quand on lit Ostrom, c'est, si on prend les catégories, c'est économiquement une institutionnaliste, mais se pose la question des institutions. Comment définir ces institutions? Et moi, je dirais que, en tant que philosophe politique, le terme de gouvernance, moi, est un terme qui m'inquiète beaucoup. Parce que ça fait bien, hein, ça fait... horizontale, ça fait démocratie délibérative ou participative, mais on sait que c'est aussi du terme de la vocabulaire néolibéral, hein, et que derrière l'affirmation de la démocratie directe, disons, il y a en fait la tentation que l'administration des choses prenne la place du gouvernement des hommes. Donc il me semble que le retour sans arrêt de la gouvernance, pour parler des communs, indique un problème, hein, qui est le problème du type d'institution, du type de la question de la loi. C'est d'ailleurs bien ce qu'a dit, enfin je ne m'inscris pas du tout en faux devant ce qu'a dit Benjamin Thoriat, je le pose en problème. Hein. Ce n'est pas avec la gouvernance qu'on répondra à ces questions. Et je voudrais simplement, pour terminer, parce que j'ai commencé en parlant de la biodiversité comme bien commun, revenir à la biodiversité à Gary Hardy. Bon, je dis, c'est un mauvais article, à mon avis. Il n'empêche que l'article de Gary Hardin est visiblement la référence de la Convention de Rio sur la diversité biologique. Hein. Et vous savez que le sommet de la Terre à Rio a rejeté la proposition qui avait été faite, en particulier par la France, de faire de la biodiversité un patrimoine commun de l'humanité. Que depuis Rio, la biodiversité relève de la souveraineté des États, ce qui en autorise la marchandisation, point. Hein. Donc de ce point de vue-là, je dirais le triomphe de Gary Hardin est d'ailleurs aussi son échec, parce que cette marchandisation n'a rien donné. Et c'est pourquoi, en 2010, hein, l'UNESCO faisait réfléchir à un certain nombre de entre guillemets, experts internationaux, sur la question des communs. Seulement, comment, hein? Parce que si vous prenez la leçon d'Ostrom, qui me paraît juste, hein, c'est pas la qualité intrinsèque des ressources qui font les communs, c'est la déclaration de la communauté, hein, c'est l'existence de la communauté. Oui, mais ben, quelle communauté au niveau de la biodiversité? Comment vous allez donner une existence institutionnelle à une gouvernance mondiale de la biodiversité? Donc, c'est là, et vous terminerez là-dessus, mais en question, hein, qui me semble qu'on ne peut pas se contenter de l'approche principalement économique, subversive économiquement, mais principalement économique de la question des communs, qu'il faut articuler le juridique et le politique dans une interrogation sur que sont les institutions du commun et quelles en sont les bases politiques. Voilà, merci.